sujet de campagne, tandis que le Parti socialiste annonce une mobilisation inédite, le recrutement de 150 000 volontaires qui feront du porte-à-porte d'ici la présidentielle. Quatre candidats ont obtenu leurs 500 parrainages. Après Jacques Cheminade et Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, le compte est bon aussi pour Marine Le Pen et Philippe Poutou. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste officialisera sa candidature ce soir lors d'un meeting à Chambéry. Pour Marine Le Pen, ce sera tout à l'heure dans son fief d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Les principaux producteurs de farine condamnés à de lourdes amendes, ils devront payer 240 millions d'euros pour s'être entendus illégalement sur les prix au détriment des consommateurs. L'autorité de la concurrence a estimé que ces ententes ont entraîné un surcoût de 11% pour les consommateurs.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Nous enregistrons le jeu des 1000 euros en public dans le Jura. Aujourd'hui, mardi, à Mignovillard, à 18h30. Et demain, mercredi, dans le Doubs, à Holland, également à 18h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit l'Orchestre National de Barbès, Mounira Michala, et Fred Désé.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, la différence.
Il est 15h04 sur France Inter et c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Bonjour, j'en entends l'émission de Daniel là, sur le Jabi. Une question là qui s'est posée, mais qui va peut-être à laquelle il répondra demain, c'est pourquoi Bernard Arnault a sauvé Yssingeau et non pas Bellegarde ou Rieux, hein ? Ce serait-il pour aider un ministre à garder son siège de député ? Si c'est ça, eh bien les travailleuses, il faut qu'elles prennent une circonscription où il y a un ministre, si elles sont sûres d'être sauvées. Bon courage, à demain.
Daniel et toute l'équipe et tous les amis des Repères, voilà, la bourgeoisie est en train de trembler. Le 18, à Paris, à la Bastille, une initiative du Front de Gauche, on va réoccuper la Bastille, on va s'en ressaisir. Ils vibrent, ils tremblent. À ce titre, à Marseille, la SNCF, d'ailleurs, par qui est-elle dirigée, cette SNCF ? Ne nous propose que 250 places pour monter. Nous étions des centaines, nous serons des centaines quand même à être à la Bastille. Même si Marseille sera peu représentée, on y sera quand même de tout cœur. Allez, la lutte nous appartient et l'avenir est entre nos mains. Au revoir Daniel, au revoir toute l'équipe. Ciao.
Ah, monsieur Daniel Mermet, ça a l'air de vous chagriner, ces femmes qui ont pu retrouver du travail avec un salaud de capitaliste, comme vous les présentez, vous, n'est-ce pas ? Bon, et le camarade cégétiste, oh mon Dieu, quel désastre, il commence à perdre un peu de sa clientèle. Hein, vraiment, au bonheur de l'ouvrier, c'est l'agitation. Mon Dieu, que de haine. Vous n'avez pas quitté l'esprit de 1789, inspiré la Russie, et vous voudriez qu'on finisse comme là-bas. Vous êtes particulièrement dégueulasse.
Dans la famille modeste, je demande la mère. La semaine dernière, Carla Sarkozy, interrogée sur les goûts de son mari, déclare qu'il a des goûts simples. Elle commence son énumération par « il aime les truffes ». Pause, silence. Elle s'aperçoit qu'elle vient de dire une grosse connerie, mais elle reste imperturbable. Et on la voit chercher. Alors après, elle dit, ah, il aime aussi les pâtes, le potage. Eh ben tiens donc, les pâtes aux truffes, le potage aux truffes. Moi, je suis certain d'une chose, il la raffole, il adore la dinde d'Italie.
France 5, 9 mars 2012.
Ce qu'il faudrait faire à dîner, alors lui, il adore les truffes. Il adore les pâtes, il adore les potages tout simples, il adore les steaks hachés, potages steaks hachés.
Bon. Bonjour Daniel, bravo et merci pour toutes vos émissions et particulièrement celle avec Christian Laval. J'ai appelé ce matin pour service public. On nous demandait de dire si on était pour les impôts ou pour l'assistanat. Je suis pour l'impôt des riches car ils doivent dédommager les pauvres de toutes les richesses qu'ils produisent. Les riches ont du fric, mais c'est pas avec le fric qu'on fait pousser le blé. Sans les travailleurs pauvres, les riches ne pourraient pas se nourrir, se vêtir, se loger, réparer leurs voitures, s'éclairer, instruire leurs enfants. Et j'arrête là mon énumération. J'espère que je serai écoutée et entendue par les AMG. Encore merci Daniel, c'est Paulette de Seine-Saint-Denis.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Aujourd'hui lundi, je viens juste d'écouter l'émission à propos de Saint-Bernard. Je suis tout juste écœurée, mais écœurée à un point. Et dire qu'il y a des Français qui vont voter pour Nicolas Sarkozy. Enfin, j'espère que ce ne sera pas la majorité. Mais bon, il y a de quoi s'inquiéter des fois. Allez, merci pour toutes vos émissions et pour vos informations précieuses. C'était Madeleine de l'Aréole en Gironde.
Merci Madeleine de l'Aréole en Gironde et merci à toutes et à tous pour ces messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37. Saint Bernard Arnault, notre sauveur si modeste. Aujourd'hui, deuxième partie, vous connaissez l'histoire. Vous aviez ces malheureuses petites ouvrières de Le Jabu qui allaient se faire virer. Et vous avez, descendant du ciel, l'empereur du luxe qui est venu les sauver, ce qui tombe très très bien évidemment pour le candidat, pas sûr que ce soit à nouveau notre président, c'est pas sûr, mais c'est excellent pour lui que son ami du Fouquet, c'est un ami de toujours, vienne sauver ainsi ces petites personnes de rien du tout qui sont passées du dessous féminin à la maroquinerie toute heureuse. Alors, toute heureuse, oui, enfin, il y a des bémols quand même. On a entendu hier pas mal de bémols. Et surtout, on est revenu un petit peu en arrière. On est revenu à Poix du Nord, non loin d'Amiens, le terrain favori de François Ruffin. On est revenu en arrière dans les reportages de la Basse, j'y suis, avec Marie-Hélène Bourlard. Marie-Hélène Bourlard qui faisait partie des ouvrières de ECCE qui ont été lâchement virées il y a quelque temps déjà pour délocalisation de leur activité qui était le costume, la confection, mais de bonne qualité. Eh bien, elles étaient beaucoup trop chères, ces petites mains trop exigeantes, et l'entreprise sous-traitante de LVMH pour laquelle elles travaillaient a été délocalisée. Elles se sont toutes retrouvées au tapis. Elles ont eu beaucoup moins de chance que les femmes de Le Jabi. C'était pas la même situation historique. Il n'y avait pas d'élection présidentielle à l'époque. Alors on est revenu un petit peu, on a fait une comparaison, si vous voulez, entre celle-ci et celle-là. Aujourd'hui, on continue avec Marie-Hélène Bourlard, qu'on retrouve. C'est presque une héroïne de la Basse. J'y suis. En tous les cas, c'est une des héroïnes favorites dans la vie réelle pour François Ruffin. Et avec elle, on va aller voir un peu ce que sont effectivement devenus ceux qui ont été collés au tapis à l'époque par cette décision prise par l'empereur du luxe, qui bien sûr dira, mais attendez, non, ce sont des sous-traitants, mais il y a un donneur d'ordre qui est bel et bien LVMH, et on n'a pas oublié, et ceux du coin n'ont pas oublié, ils font partie de ces 8 millions et quelques de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ils font partie de ces millions de Français victimes de la désindustrialisation voulue comme une politique et comme une idéologie déjà depuis plusieurs décennies dans notre pays. Voilà le sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, c'est Laurent de l'association Droit Devant avec Jacques Gaillot. C'était pour faire passer un petit message. Les collectifs de sans-papiers sont reçus au QG de campagne du Parti Socialiste, au 59 rue de Ségur, mercredi 14 mars, donc mercredi qui vient, à 14h. Alors il y a un rassemblement qui est maintenu, un rassemblement assez important. Alors évidemment, l'espoir fait vivre, hein, mais bon, aujourd'hui exploité, demain régularisé, c'est un des mots d'ordre des sans-papiers. Bon courage à tous, et si vous pouvez venir, si vous ne bossez pas, évidemment, c'est l'après-midi, à mercredi, à 14h, au métro Ségur. Bonne soirée à tous.
Bonjour, le deuxième repère à Nevers, dans le 58, c'est demain, mercredi 14, à 20h, chez Bourac, le bistrot Les Copains d'abord, c'est au 5 rue Saint-Didier, et nous espérons que vous viendrez aussi nombreux que la première fois. Au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. C'est un appel à tous les opposants aux OGM. Le collectif anti-OGM de Picardie organise un rassemblement citoyen à Amiens, samedi 24 mars à 14h30 devant la gare SNCF, suivi d'un défilé jusqu'à la Maison de la Culture. Nous vous attendons nombreux, ambiance festive et pacifique. Rappelez-vous, samedi 24 mars, 14h30, devant la gare. C'était Patrick du collectif.
À une bouchère. Sa chambre était froide, son cul était chaud. Moi, je l'avais roide au fond du frigo. Salut.
...1981, François Mitterrand et la gauche arrivent au pouvoir. La France de droite panique, pleure. Bernard Arnault décide de partir. Béat, comme le surnomment certains collaborateurs, ne croit pas au projet économique de la gauche. Il part pour New York, son défi américain.
L'histoire, c'est l'histoire de l'habillement. C'est l'histoire des délocalisations en masse. Et c'est la fin... Et c'est la fin d'un métier sur territoire.
Je pense que...
Bernard Arnault.
En plus, la France est un des pays les plus agréables à vivre. Ça, c'est bien connu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on accepte d'y rester en payant beaucoup plus d'impôts qu'ailleurs.
Soi-disant qu'on est trop cher. Mais en gagnant même pas 1180 euros, on peut pas travailler pour moins que ça quand même. C'est le SMIC.
Et c'est parti où alors le peu que vous faisiez?
C'est parti en Chine, en Bulgarie, en Roumanie.
Bernard Arnault, l'homme qui a quitté la France en 1981, est rentré dans le club des plus grands patrons français grâce à son talent de stratège, mais aussi grâce à la gauche, sous la présidence de François Mitterrand.
Bah, licenciement, c'était dur.
Ils n'ont pas pu rien faire pour nous, quoi.
Bernard Arnault, vous voyez qui c'est?
Non.
Non.
Ah, Bernard Arnault, c'était notre patron de Kenzo.
Ah oui, oui, mais je m'en rappelle.
Bernard
plus.
Arnault,
je m'en rappelle plus LVMH, tellement.
Tu te rappelles plus?
Non, non,
de tellement.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec François Ruffin, Saint Bernard Arnault, notre sauveur si modeste. Flight number 2, arriving from New
York. Changement de décor, Daniel. Là, on se trouve dans un magasin Kenzo, où je viens essayer des costumes.
Ça fait 805.
805, 810, voilà. C'est ça. Merci, en tout cas. Voilà, tu vois, cette veste-là, ce costume-là, il était donc produit à Point du Nord, près de Maubeuge, par Marie-Hélène Boulard et ses copines, pour 80 euros, matière première et madaf comprise. Et c'est vendu, donc 810 euros, pantalon et la veste. Et ça a été délocalisé à Cracovie, en Pologne, parce que ça revenait de 80 euros à 40 euros. Les salariés polonais étant payés 250 euros par mois. Et apparemment, ça serait parti de Pologne et en Bulgarie, puisqu'en Bulgarie, les salariés sont payés 150 euros.
Bonsoir Daniel Mermet. Merci pour l'émission de cet après-midi. Sachant qu'un costume Kenzo coûte environ 800 euros et qu'il revient environ à 40 euros à M. Bernard Arnault, je pose la question suivante. Combien coûte à l'État français un costume Kenzo, vu le nombre de gens que M. Bernard Arnault a mis au chômage en France? Voilà, c'est une question à laquelle il serait intéressant d'avoir une réponse.
Bonjour.
Bonjour.
Ouais, je vois.
Viens t'embêter.
Ah, tu m'amènes un chèque?
Ouf, si je pourrais. Hein.
C'est dur, dur.
Hein. C'est dur, dur. Hein,
C'est moi.
C'est moi.
On donne un
voisin. Alors, François de France Inter.
Oui, c'est pourquoi?
Ah bah attends, on va t'expliquer.
Ça va, perso?
Ouais.
Bah nous,
vous n'avez pas de boulot.
Non, c'est galère, je te dis pas.
Galère, je ne doute pas. On va en parler. Hein.
Dur, dur.
Et ben voilà, et voilà, on est dans la famille Clure. Oui, ces gens s'appellent Monsieur et Madame Clure. Et on est avec Marie-Hélène Bourlard, on est avec François Ruffin, et la famille Clure, Monsieur et Madame Clure, nous reçoivent. Pourquoi? De quoi veut-on parler? Eh bien, de ce qu'ils sont devenus. De ce qu'ils sont devenus lorsque l'entreprise ECCE de Poix du Nord a fermé ses portes. A fermé ses portes le 31 mai 2007. Vous vous souvenez peut-être, en mai 2007, lors de l'assemblée des actionnaires LVMH à Paris, Marie-Hélène Bourlard, qui était devenue actionnaire à raison d'une action qu'elle avait précédemment achetée, ainsi qu'un certain François Ruffin et quelques autres, avaient, au moment de la section de la séquence de poser des questions, la possibilité de poser des questions, avait posé des questions à Bernard Arnault directement et elle n'avait pas eu de réponse très claire. Alors, voilà, elle était partie un petit peu déçue et puis l'entreprise a fermé et puis Marie-Hélène Bourlard, elle nous l'a expliqué hier, et a eu de la chance, elle a travaillé, elle a réussi à se recycler, elle est devenue ambulancière, mais là, elle a tenu à venir voir et nous emmener voir les autres, ceux qui ont été virés à l'époque et ce qu'ils sont devenus. Donc on va parler avec cette famille et en même temps, on s'intéressera à celui qui est un petit peu, malgré tout, la cause de leur devenir, de leur destin, le ticoun du luxe Bernard Arnault, PDG de LVMH, qui, figurez-vous, mais je suis sûr que ça ne vous a pas échappé, s'est dévoilé dans un portrait et inédit, absolument inédit, intitulé « Empreinte ». Et vous savez que Bernard Arnault est devenu la quatrième fortune mondiale. C'est une réussite absolument extraordinaire dans le domaine du luxe, l'empereur du luxe. Et dans ce film, présenté, animé et conçu par Guillaume Durand, on voit le portrait d'un stratège hors du commun, à l'âme de bâtisseur, un mélange entre l'eau et le feu, et qui n'aime pas du tout qu'on le compare à Steve Jobs ou Bill Gates, les fondateurs d'Apple et de Microsoft. Pour lui, ça n'a pas de sens, car ces firmes, pour l'homme aux 60 griffes, oui, 60 griffes, 60 marques, vous avez compris, eh bien, c'est un cycle de vie beaucoup plus éphémère que celui d'entreprises souvent centenaires qu'il dirige. C'est donc passionnant de comparer, de rapprocher ces deux destins, ces deux destinées, après tout, dans un même pays. Voilà l'heure que nous allons passer ensemble. Elle est dédiée à Michel. Michel Le. Madame Michel, qui nous a envoyé un petit message où elle dit « Couturière à domicile, branchée sur France Inter, je lève le pied de la pédale Singer et je fais tout ce qui peut se faire à la main, montage, faufilage, afin de ne pas passer à côté de la petite phrase qui me requinque tout.
toute la journée. Eh bien, j'espère que vous allez l'entendre, Michel, la petite phrase qui requinque d'ici à 16h dans la Basse Vision.
Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront demain, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG,
c'est nous qu'on sera les PDG,
remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront demain, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois,
il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Jean-Pierre Elkabbach, votre invité ce matin, le PDG de LVMH,
Europe 1,
Bernard Arnault.
Bienvenue Bernard Arnault, bonjour.
Bonjour.
3 février 2012.
Cet après-midi, les salariés de Le Jabi, leur repreneur, qui est un sous-traitant de Vuitton, seront reçus à l'Élysée. Vous allez les accompagner? Vous y allez, vous?
Non, je ne vais pas à l'Élysée, mais il est possible qu'ils viennent me dire bonjour après.
Ah, parce voilà. Qu'il y a une sorte de gratitude avec Le Jabi. Vous avez cherché à sauver l'emploi ou à protéger Nicolas Sarkozy?
Je ne prends jamais de décision économique pour mon groupe en fonction de critères politiques.
Ou personnels, ou d'amitié personnelle.
Ou d'amitié personnelle.
Depuis des années, l'amitié avec Nicolas Sarkozy est réelle et n'a rien de protocolaire, comme celle avec Tony Blair, qui lui remettra à Washington le prix Woodrow Wilson en présence d'Hillary Clinton.
Bon, licenciement, c'était dur. C'était deux dans l'usine. Donc, ça fait très mal. Oui, il y a eu une série de reclassements, mais pour du fini, ça n'a servi à rien du tout.
Ils n'ont pas pu rien faire pour nous, quoi.
Nous, on va le garder sur notre travail. À penser de finir notre carrière au bout. J'ai 56 ans, donc. Là, je m'en trouve à zéro. Je gagne plus fort 400 euros. J'ai mon fils, il touche zéro. Bon, j'ai mon assurance de voiture payée. Après, j'ai l'assurance de ma maison payée.
L'assurance de feu.
Après, j'ai mon mazout à payer. J'ai 900 euros de mazout et je ne sais même pas comment je vais le payer. Alors que celui qui a le chauffage au gaz, il est aidé. L'assistance sociale, mon assistant. Mais celui qui a le chauffage au mazout comme moi, je ne suis pas aidé. C'est du luxe qu'on m'a répondu.
C'est du luxe qu'on lui a répondu à M. Clure. C'est du luxe, oui. Voilà, le luxe n'a pas forcément le même sens dans toutes les bouches et dans toutes les destinées. La destinée de Bernard Arnault, la destinée de Monsieur Clure ne sont pas les mêmes. Et pourtant, nous sommes dans la même vie. L'humanité, c'est nous. Samuel Beckett disait ça, hein, vous vous souvenez ? Que ça nous plaise ou non, actuellement, l'humanité, c'est nous. Il y a un problème. C'est d'arriver, quand on se réveille, le matin, à ne pas se poser une question. À ne pas se poser la question. À quoi je sers ? À quoi je sers, moi ? Parce que se poser cette question, ce serait répondre à rien. À rien. La fabrication des inutiles, c'est une des activités principales de ceux qui dirigent
le monde aujourd'hui, les oligarchies, les dominations financières, les politiques qui les accompagnent, les intellectuels qui les justifient et les journalistes qui les procèdent, qui les précèdent, comme autant de pom-pom girls. C'est la question à ne pas se poser le matin. À quoi je sers ? Ils sont très nombreux à se la poser, de plus en plus nombreux sur cette planète. La question est, jusqu'à quand ?
Après, j'ai l'Occident, j'ai les eaux. J'ai à peu près 300 euros.
Il y a les impôts locaux, il y a la taxe foncière.
Pour 6 mois, les impôts locaux, EDF, il y a tout ça qu'il faut. Ils disent qu'on gagne 800 euros par mois, mais il faut déduire tout ce qu'il y a à déduire. On ne gagne plus 800 euros, on gagne 100 euros. Il nous reste 100 euros, puis quoi ? C'est pour ça que je vais tout supprimer. On a arrêté toute l'assurance mutuelle. J'ai plus de mutuelle. Mais il ne faut pas qu'il m'arrive qu'il soit malade ou bien opération. Parce que là, je suis pas sorti de l'auberge. Assurance mutuelle, tout.
Il vous reste 100 euros.
S'il nous arrive pas un truc, il faut que je répare ma voiture.
Alors,
je ne peux pas réparer. Il demande 100, 140 euros. J'ai demandé de payer en deux fois, il ne votait pas.
L'eau, j'ai donné. J'ai demandé à l'électricité. J'ai envoyé du courrier. Aussitôt que j'ai eu la facture, j'ai dit je ne saurais pas payer. Du coup, j'ai envoyé pour payer en deux, trois fois. Ils m'ont répondu que ce n'était pas une banque. Donc, de là, on a été voir l'assistance sociale. Et l'assistance sociale nous a dit je ne peux rien faire pour vous. On devait plus avoir de courant ni d'eau, quoi, mais on a encore su se débrouiller, quoi. Parce qu'il y a la maman Serge qui nous aide derrière.
On sait que c'est l'officiel. Heureusement, maman qui est encore là. Elle a compris, c'était dur. Elle a compris. On nous a débloqué. Bon, maintenant, on nous a débloqué. Moi, il faut que je rembourse. C'est normal.
C'est normal.
Bon, c'est pas comme le marchand de mazout. Mmh. C'est entre familles. Tu me donnes, tu m'en donnes, tu ne dois pas. Bah. Pour le prochain, il est encore là. Mmh. Mais j'y donne une bonne somme aussi, hein. Faut pas l'oublier, hein.
Le RRC, on n'a pas le droit parce qu'on est propriétaire et puis tout. Donc la NPE nous avait dit au départ qu'il fallait vendre la maison, qu'il fallait se mettre en location.
On voit quelque chose, il faut que je vende tout. Alors je me suis quinté, quoi.
Ouais.
Vous travaillez, vous payez ma maison.
On a eu du mal, hein.
J'ai eu du mal à finir ma maison, c'est vrai, hein, Marlène. Ouais. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de saut de bain, il n'y avait pas les toilettes, il n'y avait rien du tout. Donc il a fallu que je fasse un prêt. Bon, j'ai remboursé mon prêt avec du mal. J'ai eu des saisies de maison, j'ai eu des saisies de tout.
C'est Marie-Hélène qui nous a aidés pour garder notre maison. Sinon, on était à la cour. On n'arrivait pas à payer les crédits, quoi.
Sa maison devait être vendue à la bougie, hein.
Oui, oui. Voilà.
Si on veut arriver à se débloquer avec l'argent qu'ils nous donnent, on peut revendre la maison.
Bon, là, on vit avec 4 euros par jour. Qu'est-ce que c'est 4 euros par jour ? À vif. C'est rien du tout.
Un morceau de beurre et puis une bouteille d'eau.
Quand vous dites 4 euros, c'est 4 euros par personne ou 4 euros pour vous trois ?
4 euros pour nous trois.
C'est l'assistance sociale qui a fait le budget.
Les banques, ils ne font pas pour arranger non plus les choses. On y a passé il n'y a pas longtemps, il y a un mois, ils ne nous ont pas fait. Pour 31 euros qui manquent à la banque, ils nous ont tassés. On a versé 1000 euros de deux jours pour un chèque de 31 euros qui n'avait pas passé.
Ils ne rigotaient pas non plus les banques. Hein.
Ils vous ont pris 1000 euros.
Oui, parce qu'on avait fait un chèque qui n'a pas passé, puis après les autres qu'on avait fait n'ont pas passé, quoi. Ça s'est accumulé, quoi.
C'est bête, hein.
Parce que Jérémy faisait du noir, mais il lui fallait du matériel, il fallait une tronçonneuse, il fallait un bidon d'huile avec la tronçonneuse. Donc on a dit, on va faire un chèque, il va passer, pour 31 euros, il va passer. Mais là, pour 31 euros, la banque a tout refusé, donc après ça s'est appelé, ça c'est ses crédits d'auto, la mutuelle, tout. Alors,
ça y est, c'est débloqué.
Mais et alors, il y a eu combien de frais ?
Oh, on a été pour 1000 euros de frais.
Il y a les un jour, il y a les rosés de chèques, il y a les commissions qu'ils font, tout ça. Donc on est vite arrivé à 1000 euros. Quoi.
J'ai même pas fait nouvelle, ça ici. J'ai même pas fait nouvelle. Hein.
On a mangé une tartine de fromage.
J'ai mangé une tartine de fromage blanc. Tu peux me demander, il est là comme témoin.
On n'a pas su faire Noël ni Nouvelle Année.
Je ne pouvais pas faire Noël ni Nouvelle Année.
On a garni, comme on a garni tous les ans en garnant mes jeux de lumière. Donc il y en a, ils ont dit bah, t'as pas d'argent, puis tu garnis. Ouais, mais c'est des jeux de lumière qui datent de combien ?
15 ans.
Bon, ouais,
jeux de lumière, donc. J'ai monté ça pour me distraire. Parce que si je n'avais pas monté mes jeux de lumière comme je faisais tous les ans, j'aurais été.
Là, on tourne en rond.
Là, je tourne en rond. Je demande ce que je dois faire. Tout y fait. Je peux rien en faire. Je vais pas retopisser tous les jours. Je vais pas démonter une salle de bain. Je vais pas démonter.
Il faut de l'argent.
Pourquoi faire ? Tout y est propre, tout y est fait.
Tu veux mettre en peinture tout ça, il faut de l'argent.
Donc vous ennuyez, là, en fait.
Ah, bah oui. Parce que moi, j'ai eu un accident. Bah, pas définir, tu vois. J'aurais préféré mourir dans l'accident. Que voilà la situation que je mène à ce moment-ci.
On n'est pas encore à la cour. Il y a des gens qui sont à la cour, qui dortent à la cour, qui n'ont rien. Ils sont pires que nous, donc il faut prendre notre mal en patience, quoi. Ça viendra peut-être un jour. Il faut espérer, il ne faut pas démoraliser.
La mondialisation est très mal vécue par les Français, mais pour Bernard Arnault, c'est une réalité. Derrière les images de ce convoi de voitures, on ne réalise pas toujours les chiffres d'affaires faramineux qui sortent de ces boutiques au profit du commerce extérieur français. En février 2011, LVMH a passé la barre des 20 milliards d'euros de ventes dans le monde.
Et alors ? Et alors, ça va dans quel tirelire ? Ça profite à qui ? Ça rapporte à qui ? C'est réparti comment ? On a réussi ces dernières années, même si quand même le modèle commence à être un petit peu ébréché, quelque peu terni, à faire prendre ces personnages, ces personnalités comme Bernard Arnault pour des héros exemplaires, des modèles pour la jeunesse et surtout des pourvoyeurs d'emplois, de richesses et de croissance pour le pays. Il se pourrait que qu'effectivement ce modèle commence à prendre un peu l'eau, mais peut-être suis-je un petit peu trop optimiste. On est avec la famille Clure, monsieur et madame Clure, et avec Marie-Hélène Bourlard, que vous connaissez, je viens déjà de vous la présenter, et François Ruffin, pour évoquer ce qu'est devenu la vie de cette famille depuis leur licenciement de l'entreprise ECCE en 2007, il y a 5 ans, une entreprise dépendant du groupe LVMH.
Et vous avez envoyé des CV, vous avez fait des choses comme ça ou...
Bon, des CV dans tous les coins. Oui, des CV des Intermarché, déposés sur les routes d'Inchy à Manchot de Ferrol, si vous ça ne dérange pas. Sur les routes des camps, qui sont en train de faire les routes ici, j'ai mis des CV, j'ai des, tout partout des CV. Donc, j'entends des réponses, mais je n'ai jamais de réponse. Même pour balayer, même pour tout faire, bon, je gagne mon petit salaire, plus que 400 euros.
Et vous, madame, vous pareil.
Moi,
vous...
j'ai fait un CAE à la commune de Forêt, à les écoles, j'étais bien, quoi. J'étais à la cantine, puis le ménage. De temps en temps, j'allais aider les petits. Je lavais la mairie, je lavais les écoles, je lavais la salle des fêtes, quoi. L'église, tout ça, je faisais tout. Moi, j'aimais bien. Mais malheureusement, ils n'en font plus, quoi. Il y en a encore, mais ce n'est pas pour nous. Donc le contrat, il était fini, c'est tout. Voilà, c'est comme ça.
Bernard Arnault, vous voyez qui c'est ?
Non.
Non.
Bah, Bernard Arnault, c'était notre... C'était le patron de Kenzo.
Ah oui, oui, mais je m'en rappelle.
Bernard Arnault.
Je m'en rappelle plus tellement.
LVMH. Tu te rappelles plus ?
Non.
De tellement. Ah,
voilà. Mais ah. Le moral, il en a pris un coup pour vous deux.
Ah.
Même pour Jérémy. Parce
oui,
que
bah oui. Hein.
Puis avoir le travail.
Bah, on s'en allait au matin, on rentre au soir, on était bien contents. Mais là, on va au magasin, on a demandé à la gamme verte s'il fallait personne pour le nettoyage ou bien apporter, quoi. Hein. Ils nous ont répondu, ah non, on est déjà en trop, alors donc on va pas.
On a été mangé cru. Gunver m'a répondu, il n'est pas question, j'ai trop de personnel. Oh. Du coup, j'ai refait demi-tour, je suis reparti, je mets pas. Il n'est pas que c'était là, après j'étais à sa présenter à l'endroit aussi. Attendez, parce que j'ai... Ouais, vas-y.
Donc c'est un grand bureau qui s'occupe de tout ce qui est CAE, contrat aidé, et tous les voiries, tout ça. Donc nous, on s'est présenté à ce bureau-là, on était 20 secrétaires. Elle nous a dit... De toute façon, on n'est jamais pas rentré dans le bureau, on est resté à la porte parce que ça allait être les vacances. Madame était prêtée de partir en vacances. Donc on est rentré, on nous a demandé s'il n'y avait pas des CAE à faire dans les mois qui venaient. De toute façon, vous ne touchez pas le RSA, vous n'êtes pas prioritaire. Mais moi, je dis, madame, je touche que 50 euros tous les 6-7 mois de l'année et je ne suis pas prioritaire. Donc il faudrait que je vis sous un pont pour pouvoir faire un CAE. Parce que je dis, bon, les RSA, c'est normal qu'ils travaillent, je suis pour. Mais un RSA qui va toucher 400 euros, je crois à peu près. Il doit passer après quelqu'un qui ne touche rien. Moi, ce serait ma logique, quoi.
Enfin, c'est le classement de la misère. Voilà. C'est voilà. Le classement de celui qui est au pire, quoi.
Voilà. Quelquefois, je me bats dans les magasins. Quelquefois, elle est là, elle me tient. Mais je pourrais faire une motte. Ils attrapent le coup de bac et j'ai bu, hein. Écoutez, moi, je ne trouve pas. Il y a une personne, je ne cite pas les noms, à travers la commune de Bouzy, et son homme est patron. Il se promène avec la Mercedes. Et elle va travailler à la commune de Bouzy pour faire des herbes, pour faire ceci. On n'a pas assez de place là. Après, il y a une personne qui a travaillé à Binama, à ECCE. Elle travaille à la commune de Bouzy.
Elle est au poids du Nord.
Elle est au poids du Nord. Sinon, il doit bien travailler aussi. Après, il y a une troisième personne, elle habite Bouzy, elle a travaillé à SECE, elle travaille à les écoles de Bouzy, elle fait la cantine et puis tout, et elle va être embauchée.
Tu te bats contre les ouvriers, c'est pas ça qu'il faut faire.
Non, mais non,
c'est
mais
les patrons qui sont, ils ont la loi aujourd'hui dire, pour
et
eux.
Et je vais dire pourquoi, son père, il y a le commune, son papa. Oui, donc, bah, elle a, son père, il a poussé.
Normalement, t'as pas le droit de faire plus que 2 ans, et elle, ça fait combien d'années qu'elle est là?
Mais elle va être embauchée, hein.
Ah oui, hein.
Avec son papa, et puis l'autre derrière. Et puis l'autre derrière, elle est embauchée.
Ah, mais c'est pas elle qu'il faut en vouloir, c'est aussi.
Non, nous, non, voilà. Nous, quand on la voit, on lui parle, quoi, ouais, comme si.
Je ne pouvais pas lui dire, tiens, tu étais là.
Non.
Mais moi, je peux vous dire ce que j'en pense. Mm-hmm. Et je trouve ça assez extraordinaire parce que là, on vous demande tout à l'heure si vous connaissez Bernard Arnault. Vous ne le connaissez pas. C'est le responsable de votre malheur. C'est le dirigeant de LVMH, donc du premier groupe de luxe au monde, qui sous-traitait. Qui donnait du travail à ECCE pour ses costumes Kenzo. Et bon, il avait fait le calcul, comme quoi quand on fabriquait un costume Kenzo ici, à Poix du Nord, ça revenait à 80 €. Quand il le fait faire maintenant en Pologne, puisque c'est parti en Pologne, ça revient à 40 €, 2 fois moins cher. Donc il avait décidé de partir là-bas. Bon, lui, vous ne le connaissez pas, et il y a comme une jalousie qui s'installe vis-à-vis d'anciens salariés qui se sont retrouvés, eux aussi, moins que vous, mais quand même bien dans la merde aussi, qui ont dû avoir le moral, qui a dû être dans les chaussettes aussi. Et finalement, eux, comme ils sont à côté de chez vous, que vous les croisez au magasin, que vous connaissez leur situation, il y a des conflits sur moi, je suis un peu plus dans la misère qu'eux, donc ça devrait être à moi d'avoir le travail plutôt qu'eux. Et finalement, là, on a les résultats de LVMH. Bernard Arnault, lui, il annonce ses profits qui sont énormes. Croissance des ventes de 16%. Hausse de la rentabilité de 22%. Et lui, il est tellement loin de chez vous, il appartient tellement à un autre univers, qu'à la place d'être en colère contre des bonhommes comme lui, vous êtes en colère contre la dame des cantines de...
C'est parce que nous, on voit que les jeunes n'ont pas de travail et son mari travaille, donc elle n'a pas besoin... Si, elle a peut-être besoin de travailler, mais...
Bah, moi, je gagnerais déjà 600 € par mois. Ça fait, je dirais quoi, 200 € de plus que 400. Ouais. Ça débloqué.
Pendant les voyages au bureau à New York, il ne se départira jamais d'un sens assez vertigineux du secret. En revanche, sourire dès qu'il évoque sa passion absolue, sa famille.
D'abord, je considère que je travaille beaucoup, mais pas non plus de manière exagérée.
Bernard Arnault.
Même si je travaille... le week-end et tout ça, mais je le fais de manière raisonnable. Et j'ai une vie personnelle qui est très axée vers la famille. Je m'occupe beaucoup de mes enfants. Je suis très en détail les études.
Jérémy avait rendez-vous à 9h30 à la mission locale de Landrecy. Comme il n'y a pas d'essence dans la voiture, il n'y a pas pu y aller. Donc hier, on l'a appelé, on lui a demandé « Est-ce que vraiment tu vas venir ?» Ben, Jérémy dit « Si je n'ai pas d'essence dans la voiture, je ne peux pas aller à Landrecy. Hein. On garde notre essence vraiment quand on en a besoin. Quoi. C'est tout. On ne peut pas aller n'importe où. On cherche du travail avec l'essence. » Ça, là, c'était pour les pommes au mois de septembre.
Alors, on passe au fils. Alors, tu as suivi à l'Assemblée Générale de LVMH. Mm-hmm. Tu étais descendu à Paris en car avec tes parents puis avec Marie-Hélène. Tu n'avais pas d'action, toi?
Non, non, j'avais pas d'action. J'avais, à cet âge-là, j'avais 16-17 ans. Quoi. Et j'ai soutenu mes parents en allant manifester avec eux pour faire voir que j'étais aussi concerné par cette perte d'emploi. Qu'il n'y avait pas que les salariés de Biderm, de CCE qui étaient concernés, mais qu'il y avait la population aussi autour qui était concernée. Moi, je pensais, un jour, j'aurais pensé peut-être à placer mes parents et à rentrer dans le Biderman CCE à cette, pour confectionner des costumes aussi. Quoi.
Tu serais allé?
Ah oui, franchement, oui. Parce que c'était quand même une usine, je veux dire, peut-être pas familiale, mais c'était, ils étaient complices, tous les ouvriers. C'est vrai que dans la coupe, il y avait une belle animation. C'est vrai, ils s'entendaient tous bien. Donc voilà, quoi. J'aurais pensé refaire une petite carrière, là, quoi. Peut-être pas faire ma carrière là, complète, mais faire déjà faire des stages ou faire quelque chose pour pouvoir rentrer.
Et donc finalement, tu avais 16 ans quand l'usine elle a fermé à Poix du Nord.
J'étais encore à l'école, ensuite j'ai arrêté l'école classique, je veux dire. Je suis parti dans une branche professionnelle. J'ai passé mon CAP de menuiserie sur 2 ans de temps. J'ai fait des stages à droite à gauche. Quand j'ai eu mon CAP en main, j'ai voulu trouver de l'emploi, j'ai pas trouvé. J'ai été voir une entreprise qui m'a dit « je vais t'embaucher, mais il faut que tu fasses une autre formation ». Donc j'ai refait une autre formation en tant que plaquiste. Après, le patron m'a laissé tomber. Et ensuite, on m'a proposé ici un CE pour m'occuper de la commune, en fait, des voiries, des pelouses, des places vertes, tout ça. J'ai accepté. J'ai fait 2 ans. Ensuite, bon, le CE s'est terminé, je suis reparti au chômage. J'ai essayé de trouver quelque chose, mais malheureusement, comme je veux dire, les patrons sont frileux avec les jeunes. Quand on n'avait pas d'expérience, on ne passait pas. Moi, je renvoie à peu près 15 CV par mois et j'ai 1-2 réponses négatives. Là, monsieur le maire m'avait proposé un poste à Anglefontaine chez un fabricant de menuiserie. Il avait mis une grande pancarte qui cherchait un poseur. J'ai été me présenter, il m'a dit « Je n'ai pas confiance aux jeunes, tu n'as pas assez d'expérience. »
Même pour un... parce qu'il pourrait prendre un contrat précaire d'abord.
Non, moi, j'avais quand fait plus simple que ça, j'avais dit « Vous me laissez un mois, vous me prenez un mois gratuitement en restant sur le chômage à laisser dans votre entreprise. » Et vous verrez au bout d'un mois qu'est-ce que vous faites. Mais il n'a pas voulu. Tous les jours, je fais des CV par-ci, par-là. Et puis, franchement, quand je trouve une maison comme ça à faire au noir, je le fais, quoi. C'est système débrouille, système D.
Durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs afin d'encourager le retour rapide à l'emploi. C'est l'idée de Nicolas Sarkozy.
France 24, 10 mars 2012.
Selon lui, passé quelques mois, tout individu au chômage devra suivre une formation obligatoire. À son terme, il sera tenu d'accepter la première offre d'emploi correspondant à ce métier. Un refus signifierait alors la fin de l'indemnisation chômage.
Le référendum est une grande proposition. Tranché par le peuple, toute personne au chômage qui n'a pas de chance de pouvoir trouver raisonnable un emploi soit tenue de prendre une formation qualifiante, et qu'à l'issue de cette formation, elle soit tenue de prendre un emploi qu'on lui propose.
Vous avez entendu Sarkozy, ce qu'il a raconté sur le fait qu'il allait faire un référendum sur les chômeurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez voter
Ah non, je vote pour Sarkozy, moi.
Mais
je ne sais pas si elle me l'a dit. Donc, si je peux, ça, Madame Le Pen ou Monsieur Hollande, c'est un des deux. Mais du Sarkozy, je n'en veux pas du Sarkozy. C'est tout, c'est pour lui tout ça.
Il faut travailler plus pour gagner de plus. C'était ça son truc. Il n'y a rien eu de fait.
Je travaille plus, je n'ai plus de boulot. Donc, j'ai plus de salaire qui rentre. Je ne peux plus rien faire.
Et qu'est-ce que vous lui diriez alors aujourd'hui Est-ce que vous inviteriez le président à venir ici?
Non. Est-ce qu'il a mis le costume de Biderman qu'on y avait envoyé?
Il nous l'a renvoyé.
Ah.
On lui avait fait fabriquer un costume en 2008, là. Et il nous l'a renvoyé. Il nous l'a renvoyé. On lui avait fait, toutes les ouvrières avaient fait une belle lettre, ils l'ont tous signé, et tout ça, ça nous a été renvoyé.
Donc, il s'en fout des ouvriers. Voilà. Il s'en fout des ouvriers. Parce qu'il aurait pu réagir, dire voilà, je vais essayer de faire quelque chose pour SSE. Il n'a même pas s'occupé du costume. Il n'a peut-être même pas déballé, rien du tout. Il a fait retour à SSE. Vous voyez, Sarkozy à la télévision, il fout la gueule des ouvriers, Sarkozy. Vous foutez la gueule à plein fouet. C'est lui le maître. C'est comme ça, j'ai vu à la télévision, c'est lui. Il s'y croit. Et ceux qui achètent une bonne bombe.
Une bonne bombe?
Un coup de fusil, ouais, n'importe quoi. On n'est pas méchant, mais c'est vrai. Quelqu'un a dit les ouvriers, ils se révoltent, les présidents. Mais ça ne m'étonne pas, il faut la gueule des ouvriers. En plaignait des autres, mais lui, il a battu le record à 100%. C'est comme ça. Il est toujours avec la femme, l'Allemagne. Il est toujours en Allemagne. Le coup, j'ai entendu discuter, c'est toi l'Allemagne. Il parle toujours l'Allemagne.
Il est toujours avec elle.
Avec elle, là.
Merkel.
Il est toujours avec elle. Il parle toujours d'allemand. Mais il parle pas des Français. Le problème qu'il y a en France.
Qui se présente sur ce lieu en Allemagne, quoi. Qui laisse, sa place aux Français, quoi. Ouais.
Donc vous inviteriez pas Nicolas Sarkozy?
Non. Au contraire.
Bah, tu donnerais une tartine de fromage blanc.
Oui.
Moi, il goûterait...
Sans échalote.
Le fromage blanc chez des prolétaires, hein. Il n'y a peut-être jamais été, donc...
Dites donc, vous n'êtes pas très accueillant.
Moi, j'invite plutôt un malheureux. Oui. Parce que je verrai un malheureux au sud devant, je le fais rentrer. Qui de faire coucher dans mon cri-coq? Pour qu'il couche au cou. Parce qu'il y en a des malheureux.
Oh, on a vu à Intermarché, ils faisaient le resto du cœur, il fallait mettre de l'argent dans les boîtes ou bien donner pour les malheureux de la route. On voyait... Le monsieur, il nous a dit, tous les gros, ils ne donnent pas. C'est tous les gens qui sont au chômage qui n'ont rien.
Et vous avez donné?
Ah oui, j'ai donné.
Quelque chose, bon, c'est pas gros.
J'ai donné un paquet de pâtes et puis j'ai donné du manger pour les petits bébés, quoi.
Bah, ça fait plaisir.
On peut s'en retrouver à la route, hein. Même elle dit, il y en a qui sont là avec des boîtes, mais que c'est pas des Français, ben on met dans la boîte. On peut être comme eux. Hein. Ouais. Je peux aller au Orsaval devant la porte à Marie-Hélène et puis mentir. Hein.
Moi, je te ferai rentrer. Hein.
Ah oui, je le sais.
On peut y arriver, on peut être dehors.
Oui, on peut.
Et ça va vite pour être dehors. Oui, oui. Parce qu'eux ne chercheront pas midi à 14h. Hein. Ah, vous allez l'huissier, hop, chut, dehors. Vous allez faire quoi?
Bah pourquoi tu m'en as pas parlé?
Bah on t'a plus vu, donc on
a mais
pas...
le téléphone existe.
Oui, mais nous, on n'a pas de téléphone. Bah, j'ai même pas les moyens pour m'acheter une carte téléphonique.
Ah ouais, t'es pas dans le boudin parce que...
Non, je l'ai plus, le téléphone. Non, on l'aura plus jamais, c'est tout, la ligne a été coupée, c'est tout.
Mauvais ouvrier, mauvais compagnon, je m'ai cassé la gueule dans mon tour de France. Mon chef-d'œuvre était de la mettre en transe, quand l'œuvre est immense, c'est perdu d'avance. Mauvais ouvrier, mauvais compagnon. On compte plus les failles dans ma cathédrale, les carillons d'or font des bruits de mort. Les vitraux cassés m'ont tranché le corps, il y a dans la nef la bite d'un porc. On compte plus les failles dans ma cathédrale. J'ai l'amour amer. Le cœur en chaos, y'a ma tête à terre. J'ai le béguin bègue, je peux plus travailler. Je prends l'équipe de nuit, faut gagner sa mie. Il faut que je l'usine pour qu'elle prenne lustre. L'ennui à la chaîne, voilà qu'elle se frustre. Elle préfère les mains calleuses d'un rustre. Je prends l'équipe de nuit, faut gagner sa mie. Planqué dans mon phare, j'ai rien vu venir. Les grandes vagues à l'âme m'ont coupé du monde. J'ai lancé des lignes qui étaient pas fécondes. Et j'ai fait naufrage avec ma gironde. Planqué dans mon phare, j'ai rien vu venir. C'est parti, remise, bois ton RMI. Prends la longue file des cœurs au chômage. Fais les petites annonces sans perdre courage. Pour trouver l'embauche des yeux sans orage. C'est partie remise, boiton RMI. Ah merde, j'ai l'amour amer. Le cœur en chaos, y'a ma tête à terre. J'ai le bégam bègue, je peux plus travailler.
Oh, mais je sais ce que vous vous dites derrière votre transistor. Vous dites, bah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à mon niveau, ça? On est sûr des messages qu'on va recevoir, c'est terrible. Oh là là, mais on le savait déjà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a peut-être des moyens quand même, hein? Il y a quand même des moyens qui s'offrent dans les semaines qui viennent, quand même. Et puis, de façon générale, il y a quand même des moyens. Il nous reste encore des marges de manœuvre. Et pourtant, François Ruffin et Marie-Hélène Bourlard, eux aussi, comme vous, se posent des questions.
Tu vois, je me dis, là, tu vois, c'est toujours moi qui vais chez les pauvres. J'en ai marre, quoi. Moi, je pourrais recevoir Bernard Arnault, je pourrais recevoir les riches aussi. Est-ce que, par exemple... Tu voudrais pas envoyer une carte postale à Bernard Arnault pour lui dire, bon, bah, vous avez sauvé les Lojabis, mais venez voir chez nous comment c'est.
Ouais, pourquoi pas.
Est-ce que tu pourrais pas envoyer une carte postale à Jean-Pierre Elkabbach pour lui dire, bon, bah, venez voir, là, vous avez reçu Bernard Arnault en disant que c'était un sauveur. Est-ce que vous voudriez pas venir chez nous voir comment c'est? Allez, on va aller chez l'Éclure avec vous, monsieur Elkabbach. On va aller chez l'Éclure avec vous, monsieur Arnault.
Bah oui, ça serait bien ça, après tout. Pourquoi on n'inviterait pas Bernard Arnault et puis Elkabbach, et puis on irait chez l'Éclure, hein. On verrait les trois, il y a trois chômeurs chez l'Éclure, une famille de trois chômeurs, et peut-être qu'ils pourraient les reprendre.
Donc tout cela, tu serais prêt à les inviter à passer dans la Vénois?
Ouais, je les invite à venir dans la Vénois. On irait à l'usine de CCE à Prouvy où il reste 28 salariés.
Je cherche quelque chose.
Ouais, j'invite Bernard.
Alors attends, je cherche quelque chose parce que j'avais une surprise pour toi du coup.
Oh, mais... Ah, c'est des cartes postales.
T'as dit qu'ils étaient bienvenus.
Ouais.
Donc je t'ai pris des petites cartes postales.
Ah, du Nord.
Bah du Nord, de l'Avesnois. Là, t'as une carte de l'Avesnois, Maubeuge, Maroilles. Là, t'as des vaches qui présentent l'Avesnois. Là, t'as Saveur du Nord, le Maroilles. Je te propose qu'on écrive des petites cartes postales, là. Et puis moi, je vais aller les porter à Paris.
Ah, oh, je suis d'accord. Cher Bernard. On va y prendre les vaches, ça.
Tu prends les vaches pour Bernard Arnault. Voilà.
Saint-Bernard ? Non, monsieur. Non ?
Non, Saint-Bernard.
Monsieur Saint-Bernard.
Allez.
Allez.
Il va pas les empoisonner avec le maroilles quand même quand ils viennent.
Moi, je reçois pas ce galeur. Hein. Sinon, je le poursuis à coup de four, charge, c'est clair et net. Hein. Ah, chaud. Non, pas des gaillards pareils. Hein.
Ah, oui. Ou alors en terrain neutre. Vous pouvez aller sur l'ancien site de Poix du Nord pour lui montrer ce que c'est devenu.
Peut-être, ouais.
Rappelle-nous ce que tu as choisi comme image pour Bernard.
Bah, l'Avesnois, avec les vaches, maroilles, un beau paysage du Nord. C'est dommage, j'ai pas et d'usine. Bon. Mais il y a les briques, là, on voit bien. J'aime bien cette carte. Monsieur Saint-Bernard, à la suite de la délocalisation de mon entreprise de CCE, j'ai été licencié en 2008. Vous avez choisi de faire fabriquer les costumes Kenzo en Pologne. J'apprends aujourd'hui que vous avez sauvé les Le Jabi. Il y a toujours des gens au chômage, vos ex-salariés. Je vous invite dans le Nord pour les rencontrer. Fraternellement, Marie-Hélène Bourla. Voilà, ça va.
Je pense qu'il va être ému.
Bah, j'espère, hein. Ça va le toucher quand même. Hein. Il a bien été touché par les Le Jabi. J'espère le toucher.
Allô ? Allô ? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est François Ruffin.
Ah oui, racontez-moi là un peu ça.
Ce reportage alors.
Enfin, dans tout, la carte postale, tout ça, c'est un peu bizarre.
D'accord. Je me suis rendu sur un ancien site qui se trouve à Poix du Nord, où j'ai rencontré les anciens salariés de cette usine.
Comment vous les avez trouvés ?
Bah, simplement par les anciens responsables syndicaux et ainsi de suite.
D'accord.
Et la carte postale est une invitation faite par Marie-Hélène Bourlard, donc qui travaillait sur place.
Elle l'a faite devant vous ?
Oui, bien sûr.
Oui.
Une invitation à Bernard Arnault pour lui dire, bah voilà, si vous voulez venir voir ce que sont devenus... Bon, si vous voulez venir prendre le maroilles avec nous à Orsinval, vous pouvez venir et on vous fera rencontrer les anciens salariés, voir un peu ce qu'ils sont devenus. Mmh. Alors, je voulais savoir, moi, où sont produits aujourd'hui les costumes Kenzo ?
Non mais attendez, moi je continue là-dessus. Et ensuite le CD, qu'est-ce que c'est ? J'ai pas bien compris parce qu'on comprend à moitié ce que le monsieur dit.
Vous comprenez pas ce qu'il dit, monsieur ?
Si, enfin, je comprends, mais enfin, c'est quoi, ça sort d'où ?
Bah, c'est un monsieur qui travaillait, qui a fabriqué des costumes Kenzo donc pendant 10, 15, 20 ans à Poix du Nord,
ouais.
Qui a été licencié en 2008.
D'accord.
Et il explique quelle est aujourd'hui sa situation, qui est que par exemple, il n'a pas de quoi payer son mazout.
Vous avez compris qu'il s'ennuyait.
Oui, mais au-delà de s'ennuyer, il me semble que sa situation sociale est particulièrement difficile.
Ah oui.
Et voilà, il a failli perdre sa maison, avoir des coupures de gaz, d'électricité, ainsi de suite.
D'accord, d'accord.
Et donc, bah, sur ce plan-là, je me demandais, LVMH, premier groupe de luxe mondial,
oui.
Qu'est-ce que vous pensez quand derrière les costumes, ce qui reste, ce sont des gens qui se retrouvent dans cet état de...
Est-ce que vous allez faire un sujet là-dessus ?
Oui.
Vous allez parler de Kenzo ?
Bah oui.
Vous avez parlé de Kenzo sans avoir rencontré quelqu'un à LVMH ?
J'ai envoyé un mail, il me semble, il y a une semaine.
À qui ?
À vous-même.
Je vous ai eu au téléphone ?
Oui, vous m'avez eu au téléphone. Je vous ai envoyé...
Ah, je pensais... Pardon, ouais.
Je vous ai envoyé un mail et je n'ai eu aucune réponse pendant une semaine.
Je suis en train de chercher votre mail, en fait. Ah oui, exact, le 29. Bah, pour votre sujet de Kenzo, écoutez, je vais m'en occuper.
D'accord. Puis vous me direz si jamais Bernard Arnault accepte d'aller rencontrer Marie-Hélène Bourlard à...
Bon, bah, je vous rappelle.
Je vous remercie.
Merci, monsieur. Au revoir.
Au revoir. Bah, je rappelle, vous aviez dit que vous alliez me rappeler...
Non, j'ai toujours pas de... Je vous ai toujours pas rappelé, voilà.
J'ai discuté avec un directeur de magasin de chez Kenzo qui m'a dit que les costumes venaient de Poix du Nord, près de Maubeuge, sachant que je me suis rendu dans cette usine et cette usine, elle est fermée. Et maintenant, on y vend des parts.
J'ai pas de commentaires à faire là-dessus, Au revoir, monsieur.
Mais vous avez pas... Allô ?
Oui.
Oui, c'est de nouveau François Ruffin.
Oui, je sais.
D'abord, c'est pas très agréable de se faire accrocher au nez comme ça.
Non, mais je vous dis que je vais vous rappeler, on vous a toujours pas rappelé.
Oui, mais justement, l'émission étant diffusée cet après-midi, c'est un peu la dernière minute, quoi.
Oui, bah, on vous rappellera.
Et d'ici combien de temps?
Je ne sais pas.
Bonne journée, au revoir.
Merci Bernard. C'était Saint Bernard Arnault, notre sauveur si modeste. Second volet du reportage de François Ruffin sur les traces du patron de LVMH, entrepreneur au grand cœur. Merci à la famille Clure, merci à Marie-Hélène Bourlard. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la écouter également sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny et Alice Berger, Bertrand Chometon et Franck Adrère ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Moi, je sais pas de quoi la vie sera faite, mais je veux mettre de l'argent de côté.
La pierre ? Je crois que je vais me réfugier dans la pierre.
Les taux incroyables sur 3 mois, vous y croyez-vous ?
L'assurance vie, c'est pas mal ça, l'assurance vie.
Oui, tout le monde a un avis différent sur comment bien placer son épargne. Mais qui s'y connaît vraiment ? Chez MACSF, grâce à notre expérience et notre solidité financière, nous proposons aux professionnels de la santé et à leurs proches des assurances vie parmi les plus performantes du marché. Pour en savoir plus ou contacter un conseiller, rendez-vous sur macsf.fr. MACSF, notre engagement, c'est vous.
France Inter, partenaire du Salon du Livre à la Porte de Versailles du 16 au 19 mars. Au programme, 4 jours de rencontres inédites avec vos auteurs préférés. Le Japon sera l'invité d'honneur de cette 32e édition. Une trentaine d'auteurs fera le déplacement, représentant le roman, la poésie, les mangas et les livres jeunesse. Et retrouvez les émissions de France Inter en direct et en public du Salon. Renseignements sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du festival Avec le Temps. 30 artistes en concert à Marseille du 16 au 25 mars.
Si tu perds, si tu vois que la perche se dérobe.
Cali, Paul Personne, Julien Doré, Brigitte, la Grande Sophie, Lisa Portelli.
C'est l'amour qui nous mène bien plus loin, le regard c'est ta peau.
Retrouvez le festival Avec le Temps du 16 au 25 mars à Marseille dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la basse, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Cette fois, la confirmation est officielle. Mylène et Michael font bien partie des victimes du naufrage du Concordia au large de la Toscane. Les corps du jeune couple de Sarcelles ont été identifiés par des tests ADN. Leur corps avait été repêché le 22 février dernier. Le naufrage aura fait au total 32 victimes. À Rome, les précisions d'Anaïs Feugat.
Depuis 10 jours, on savait que les corps de Mylène et de Michael avaient été identifiés grâce à des documents d'identité, des tatouages et des objets personnels retrouvés sur les victimes. Le jeune couple de la région parisienne, âgé de 23 et 25 ans, avait envoyé un dernier message téléphone le soir du drame, prévenant leurs proches qu'ils avaient enfilé leur gilet de sauvetage et qu'ils se dirigeaient vers les canaux. Depuis, plus rien, si bien que les parents du jeune couple étaient venus à plusieurs reprises sur l'île du Giglio pour suivre les opérations de recherche au plus près. La préfecture de Grosseto confirme également aujourd'hui l'identification de 3 Allemandes, des personnes âgées entre 68 et 79 ans. Enfin, ce sont bien les corps de la petite Diana, 6 ans, et de son père Williams qui ont également été retrouvés ce 22 février dernier. Le sort de cette fillette avait ému toute l'Italie. Dimanche dernier, les supporters du club de foot de Cézanne lui avaient rendu hommage en déployant une large banderole sur le bord du terrain. Rome, Anaïs Feugat, France Inter.
Perquisition au siège des laboratoires Servier à Suresnes. Il s'agit de l'enquête sur le Mediator. Nouvelle perquisition dans le cadre des poursuites engagées par les juges d'instruction par pour destruction de preuves. 4 nouvelles arrestations encore. Cette fois, il s'agit de l'enquête qui vise le cercle de jeu parisien Wagram. Parmi les personnes interpellées aujourd'hui figure un élu d'un village de Haute-Corse. La semaine dernière, 7 personnes ont été mises en examen dans cette affaire. 4 ont été écrouées. Marine Le Pen fera tout à l'heure une annonce officielle de candidature pour la présidentielle. Elle le fera dans son fief d'Hénin-Beaumont du Pas-de-Calais. La candidate du Front National a obtenu les 500 parrainages nécessaires, tout comme le candidat du NPA, Philippe Poutou. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan affirme avoir obtenu les signatures nécessaires, mais il ne précise pas le nombre de parrainages obtenus. Quant à Dominique de Villepin, il affirmait hier avoir passé le cap des 460 signatures, dont un tiers recueilli, selon lui, en Outre-mer. En Moselle, la scierie d'ArcelorMittal bloquée par des métallurgistes depuis ce matin à Florange. Une trentaine d'ouvriers empêchent l'accès aux bureaux administratifs. Les syndicats veulent marquer le coup avant une manifestation prévue à Paris dans deux jours. Et puis la fin des perturbations SNCF en Lorraine. Les contrôleurs qui exerçaient leur droit de retrait depuis hier après une série d'agressions viennent de reprendre le service cet après-midi. À Angers, 500 salariés de Technicolor manifestent pour l'emploi. Ils ont défilé pour le maintien du site d'Angers qui emploie 350 personnes. Les syndicats veulent interpeller l'État. L'ancien site Thomson est, disent-ils, le seul en France à produire des décodeurs. Il suffirait que France Télécom décide de faire produire son nouveau décodeur en France et non en Asie pour que le site d'Angers soit sauvé. Enfin, l'Union européenne tape sur les doigts de Budapest. Les ministres des Finances approuvent le gel d'une aide de près d'un demi-milliard d'euros destinée à la Hongrie en raison de ses déficits excessifs répétés. Cette décision constitue une première. Elle prendra effet en janvier 2013.
Demain soir, sur France Inter,
un heureux événement se prépare.
Sylvie Chapelle.
Pour la première fois en Europe, des musiciens nord-coréens viennent se produire à Paris. Ils joueront leur répertoire, mais aussi le grand répertoire, aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et sous la baguette de Maître Chung, l'initiateur de ce projet. Nous serons là pour vous faire vivre ce moment historique d'ouverture qui, on l'espère, sera contagieux. Je vous donne donc rendez-vous demain à partir de 20h05 sur France Inter. Nous serons en direct depuis la salle Pleyel.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
À demain.
France Inter. La différence.
16h04, bon après-midi, c'est bon après-midi sur France Inter puisque vous retrouvez Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Delphine Simon, bonjour.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, nous allons commencer avec de la guitare, et de la très belle guitare, car il s'agit de celle de Miloche. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée de donner uniquement le prénom, ça se fait beaucoup, j'ai parlé de Yundi hier, au lieu de Yundi Lee, donc on essaye de rapprocher les artistes du public, mais enfin, quelquefois ça peut un tout petit peu éloigner ceux qui viennent simplement aimer la musique. Son vrai nom donc complet, c'est Miloche Karadaglic, et c'est un beau jeune homme, il vient du Monténégro, j'ai déjà parlé de lui ici, parce que le disque est simplement formidable. Et lui, il a entendu le grand Segovia quand il était jeune, qui jouait Asturias d'Albéniz. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu musicien, notre cher Miloche. Et armé d'une vieille guitare poussiéreuse de sa famille, il s'est inscrit dans une école de musique. Et puis en 6 mois, il a appris tout ce que les professeurs pouvaient lui transmettre. Et ensuite, c'est par Londres qu'il est passé. Il a quitté son pays pour s'inscrire à Londres, à l'Académie de musique. Et heureusement, après avoir envoyé quelques documents, quelques enregistrements, on l'a mis dans de très très bonnes mains. Eh bien voici Asturias, le morceau fondateur, si j'ose dire, d'Isaac Albéniz, interprété donc par Miloche. Je vais le dire quand même, je comprends que ce soit difficile de dire son nom, mais enfin Karadaglic, un superbe guitariste. Thank you. Conclusion d'Asturias, description musicale de l'ambiance musicale des Asturies en Espagne. Donc Isaac Albéniz a écrit cette fantastique musique très envoûtante et nous avons pu apprécier le talent à la guitare de Miloš Karadaglić qui sera à Paris au Théâtre des Champs-Élysées lundi 19 mars, lundi prochain à 20h avec Fernando Sor, Jean-Sébastien Bach, Villa-Lobos, Albéniz. Bon, là un beau programme très très mélangé et si vous voulez y aller c'est très bien, il y a quelques places encore. Et sinon, vous pouvez aussi essayer d'appeler le numéro que je vais donner maintenant, mais pas celui de France Inter, attention, stop. Mais si vous prenez un papier et un crayon, voici le numéro où on vous attend pour obtenir des invitations. Il y a 50 invitations pour deux personnes, soit 100 places en tout. Évidemment, si vous êtes seul, bah, vous demandez une seule place, mais en tout cas, 100 places sont offertes par Universal, Deutsche Grammophon. Voici le numéro 01 44 41 94 53, je répète, 01 44 41 94 53. Et pour vous permettre de commencer à appeler, si vous voulez bien,